Les portes de la connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.
Alors, bienvenue dans les portes de la connaissance. Alors, comme je vous disais, Dominique Lormier est arrivé en retard. Il a eu un problème sur la route, ce qui est une chose qui peut arriver. Effectivement, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Donc, excusez-nous les auditeurs pour ce retard. L'émission commence donc sur les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale de Dominique Lormier. Alors, je répète, Dominique Lormier est un écrivain historien. Il a écrit 170 ouvrages, ce qui n'est pas rien, d'accord. Il a été membre, évidemment, et décoré de la Légion d'honneur. Et il va parler aujourd'hui, d'un de ses livres. Il reviendra dans l'émission plusieurs fois, parce qu'il a accepté notre invitation, vous parler de d'autres ouvrages sur d'autres sujets qu'on choisira ensemble. On vous en parlera après l'émission. Mais aujourd'hui, on va parler de la guerre. Alors, la guerre, tout le monde sait à peu près ce qui s'est passé pendant la guerre. On a des récits, on a des historiens, on a des gens qui racontent beaucoup, et beaucoup d'émissions télévisuelles et de radio ont été faites sur la guerre mondiale. Mais il y a des choses que vous ne savez pas, et des choses qui sont cachées au public, des choses qui n'ont jamais été révélées, comme par exemple, on expliquera dans une émission qu'on fera avec quelqu'un bientôt les secrets de la propulsion de tous les engins militaires secrets nazis qui ont été fabriqués à l'époque, non pas pour les mettre en avant, mais pour montrer que ces gens avaient aussi de grands cerveaux et ne faisaient pas qu'une guerre sur des bases, je dirais, qui ont laissé des traces horrible à des gens qui ont vécu cette guerre, mais ont laissé aussi derrière eux des traces d'un génie militaire qui était bien actif à l'époque. Donc aujourd'hui, les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale. Alors Dominique, bonjour.
Bonjour.
Alors dites-nous un peu plus sur vous d'abord.
Alors, je suis un passionné de la Seconde Guerre mondiale. J'ai fait des études d'histoire, mais que j'ai arrêté assez rapidement pour me consacrer uniquement à l'activité littéraire en tant qu'auteur. J'ai sorti mon premier livre en 1986. C'était en 86. J'avais 26 ans à l'époque. Et depuis, j'ai récidivé de nombreuses fois, puisque j'ai publié à peu près, comme vous l'avez dit, 170 ouvrages, avec une prédilection pour la Seconde Guerre mondiale et l'histoire de la résistance, mais également pour les voies spirituelles orientales, notamment le bouddhisme que je pratique depuis 30 ans, où je suis guide d'ailleurs de méditation, et également un intérêt aussi pour, à travers des biographies que j'ai écrites, également sur des personnages importants, le maréchal Koenig, Jean Moulin, Rommel, Mussolini et d'autres personnalités, Gabriele D'Annunzio, également sur des grands maîtres du bouddhisme tibétain, donc sur des sujets relativement variés.
D'accord. Donc on reviendra sur ces sujets. On vous réinvitera si vous acceptez l'invitation pour d'autres sujets, sur d'autres livres. Hein. Et aujourd'hui, on va parler de ce fameux livre, justement, Les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi ce titre de livre et pourquoi exactement et comment vous en êtes venu à écrire justement des vérités qui ne se connaissent pas, parce qu'on ne connaît pas tout sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a des choses qui sont cachées, des choses qui n'ont jamais été dites. Alors expliquez-nous un petit peu plus comment vous en êtes venu à écrire ce livre.
Alors, il y a eu d'abord un tome 1, parce que celui que je présente aujourd'hui, c'est le tome 2. Et le tome 1 a connu un succès extrêmement important. Il est même sorti, il a été traduit en Chine également. Donc, ça a été un gros succès, je dirais, dans l'édition. Et mon éditeur m'a proposé de faire un tome 2 sur cette thématique de la Seconde Guerre mondiale. Et du fait également qu'il y a eu l'ouverture des archives en 2015, qui nous permet maintenant d'avoir une vision beaucoup plus panoramique et beaucoup plus large du second conflit. On a eu pendant des décennies une version qui venait uniquement des vainqueurs. Et il est intéressant de s'intéresser aussi à la version des vaincus, sans reprendre bien sûr la version de propagande des vaincus, mais d'avoir justement un regard panoramique qui nous permet de remettre en cause certains thèmes qui avaient été mis en avant et que j'ai voulu démolir à travers justement l'ouverture des archives que j'ai consultées, les nombreux témoins que j'ai pu consulter, et également le fait qu'il est important d'avoir aujourd'hui un regard décomplexé sur le sujet, mais qui ne soit pas enfermé dans des tabous également, dans une doxa également, et qui nous permette d'avoir vraiment une vision la plus proche de la réalité de ce qu'a été ce second conflit. Et c'est ce que j'ai voulu aborder dans c'est ce que j'avais fait dans le tome 1, qui a été beaucoup apprécié, et c'est ce que je récidive aujourd'hui à travers différentes thématiques dans le tome 2.
Alors, pourquoi les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale ? Quelles sont les vérités qui ont été cachées au public ? Parce qu'on connaît tous la version officielle de ce qu'a été la guerre, ou à peu près. Pour la jeunesse, ils la connaissent très mal. Pour les anciens, ils la connaissent bien, puisqu'ils l'ont vécu, cette guerre. Mais qu'est-ce qu'il y a, justement, de particulier, et qu'est-ce qui aurait été caché au public ?
Bah souvent, notamment, ça fait l'objet d'un des premiers chapitres de mon livre. On pense souvent qu'on est rentré en guerre parce qu'on avait signé un pacte militaire avec d'aide militaire à la Pologne. Or, il faut savoir que ce pacte n'a jamais été entériné politiquement et militairement. C'est-à-dire les différents dirigeants français et polonais n'ont pas entériné l'acte. Donc, véritablement, il n'y avait pas véritablement d'obligation que la France entre en guerre à ce moment-là. Surtout que la Pologne avait un comportement relativement ambigu. Durant l'entre-deux-guerres, elle était plutôt favorable au régime hitlérien. N'oublions pas ensuite également que le gouvernement polonais était quand même assez antisémite, et ils ont d'ailleurs signé un pacte d'amitié en 1934 avec l'Allemagne hitlérienne, ce qui a été la preuve d'une grande naïveté, étant donné qu'il y avait des revendications territoriales qui apparaissaient même dans le Mein Kampf d'Adolf Hitler à l'encontre de la Pologne. Donc les Polonais ont pensé qu'ils pourraient s'allier avec les Allemands pour attaquer la Russie. C'était une possibilité, étant donné que les deux pays étaient très anticommunistes, que ce soit la Pologne nationaliste de Pilsudski et également l'Allemagne nationale-socialiste d'Hitler. Or, il faut savoir que les Allemands aussi avaient des revendications territoriales vis-à-vis de la Pologne, concernant notamment le fait que la Prusse orientale soit séparée par le corridor de Danzig. Et donc, les Allemands voulaient absolument rattacher donc cette Prusse orientale au reste du Reich. Le corridor de Danzig était sous domination polonaise, et ça a été une des causes du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Les Polonais ont refusé le libre passage du corridor de Danzig, et donc, véritablement, ça a déclenché la Seconde Guerre mondiale du fait des revendications territoriales allemandes. D'autant plus que Hitler avait signé un pacte de non-agression avec Staline également au mois d'août 1939, ce qui a été à la stupéfaction des générales, aussi bien des Britanniques que des Français et que des Polonais. Et à ce moment-là, véritablement, les Polonais se sont rendus compte bien tardivement le jeu manipulatoire qui avait été celui d'Hitler, en faisant semblant de vouloir s'entendre avec la Pologne, et en vérité, en signant un pacte de non-agression avec l'Allemagne hitlérienne, et finalement en déclenchant les opérations militaires le 2 septembre 1939 contre la Pologne.
D'accord. Alors, justement, par rapport à ça, parce qu'on a des traces de l'histoire récente qui montrent que la Pologne était indirectement oppressée par l'oppression communiste, puisqu'on a vu des images très frappantes à une certaine époque. Pourquoi est-ce que, justement, la Pologne aurait-elle... vous l'avez expliqué, mais justement, la Pologne était engagée avec un processus avec l'Allemagne hitlérienne. Mais pourquoi, justement? Puisque c'était un pays qui n'avait normalement, même si elle était contre l'oppression communiste, même si elle était engagée avec... Pourquoi aurait-elle fait cette démarche? Puisque de toute façon, elle n'était pas engagée, elle n'avait pas d'engagement politique avec l'Allemagne directement.
Ah ben, si, il y avait eu un pacte d'amitié qui avait été signé en 1934, et il y avait quand même des rapprochements idéologiques. C'était deux pays qui étaient nationalistes. L'Allemagne était très antisémite, et il y avait quand même un fort courant d'antisémitisme qui existait en Pologne. Donc il y avait, je dirais, des points d'entente. Et d'autre part, il y avait un ennemi en commun qui était l'Union soviétique, du fait de la haine du communisme. Donc c'était c'est de cette manière-là que les Polonais se sont fait berner, et ils ont véritablement cru qu'ils allaient pouvoir s'entendre avec les Allemands pour attaquer l'Allemagne hitlérienne. Et ils se sont fondés aussi sur un faux espoir que l'armée française serait en mesure de pouvoir intervenir si jamais ils étaient attaqués au pire par les Allemands. L'armée française n'était pas prête à ce moment-là, en septembre 1939. Et il a fallu attendre le 10 mai, véritablement, du fait du déclenchement de l'offensive allemande à l'ouest contre la France, pour véritablement voir, je dirais, l'impréparation militaire de la France. Et donc, véritablement, on a assisté au dépeçage de la Pologne en septembre 1939, après une courte campagne menée par les Allemands, mais également aussi par les Russes, puisque les Russes ont poignardé dans le dos les Polonais en les attaquant à la mi-septembre, alors que les Polonais étaient surtout engagés face aux troupes allemandes. Et c'est à ce moment-là que, véritablement, le pacte de non-agression a pris toute sa mesure avec une agression menée à la fois par l'armée allemande et par l'armée soviétique. Dans le chapitre 2 de mon ouvrage, j'aborde également un sujet qui est peu connu, c'est l'étendue des pertes de la campagne de mai-juin 1940. On a souvent cru que ça avait été une promenade militaire pour l'armée allemande. Or, contrairement à une légende tenace, l'armée française s'est battue avec héroïsme, même si elle était mal commandée. Et il faut savoir que les pertes allemandes ont été très élevées. Sur les 2700 chars allemands engagés, il y en a eu 1100 mis hors de combat, en 6 semaines de combat seulement, entre le 10 mai et le 25 juin. Et sur les 3500 avions engagés, il y en a eu 1700 mis hors de combat, détruits ou endommagés, ce qui montre la preuve de, je dirais, des combats extrêmement durs qui ont été menés durant cette campagne de l'Ouest, souvent présentée comme une promenade militaire, alors que l'armée française a résisté héroïquement. Malheureusement, elle était très mal commandée par notamment le général Maurice Gamelin, qui s'est trompé sur l'axe réel de l'offensive allemande le 10 mai 40. Il était persuadé que les Allemands attaqueraient en direction d'Anvers. Ils ont attaqué beaucoup plus au sud, dans les Ardennes, qui étaient réputées infranchissables aux chars allemands. Donc l'armée française s'était engagée du côté d'Anvers, aux côtés du corps expéditionnaire britannique, où il y a eu les meilleures troupes alliées engagées dans ce secteur. Et alors que le front des Ardennes était pratiquement dégarni de troupes françaises, parce qu'on était persuadé que la forêt des Ardennes était impénétrable aux chars, et d'autre part que le fleuve environnant était un magnifique obstacle anti-char. En vérité, les Allemands sont passés facilement à travers les Ardennes. Ils se sont heurtés quand même à des résistances assez acharnées en certains endroits des troupes françaises. Néanmoins, les troupes françaises engagées en Belgique ont été encerclées. Ça a été le fameux coup de faux de l'armée allemande qui a remonté jusqu'aux côtes du Nord, jusqu'aux côtes de la Manche. Et à ce moment-là, véritablement, on était dans une situation dramatique. Néanmoins, l'armée française a couvert le rembarquement des troupes britanniques à Dunkerque, ce qui a permis à la Grande-Bretagne de poursuivre la guerre. Il faut savoir que sur les 450 000 soldats britanniques, 400 000 ont pu rejoindre la Grande-Bretagne grâce à la résistance héroïque des troupes françaises dans le périmètre de Dunkerque, ce qui a permis à la Grande-Bretagne de poursuivre la guerre, comme ça a été reconnu par Churchill lui-même. Ensuite, on a assisté à la deuxième phase de la campagne, à la bataille de France du 5 au 25 juin sur la Somme-Hélène, où les Allemands se sont heurtés à une résistance acharnée. Ils ont mis plus de 10 jours pour percer directement les lignes françaises alors qu'ils avaient une supériorité de 3 contre 1. Et ils ont subi de très lourdes pertes, notamment sur la Somme, sur le plateau de Dury, où il y a un corps blindé allemand qui a perdu plus de 200 chars en l'espace d'une journée, contre 2 divisions d'infanterie française, et sur l'ensemble du front de l'Aisne et de la Somme, notamment à Rethel et dans d'autres secteurs, il y a eu des combats extrêmement durs. Ce qui a poussé Hitler à vouloir proposer un armistice à la France, à ce moment-là, il y avait eu un changement de gouvernement à partir du 17 juin. Ce n'était plus Paul Reynaud qui était au règne de pouvoir, mais le maréchal Pétain, qui s'était engagé dans des pourparlers d'armistice avec l'Allemagne. Et l'Allemagne avait subi des pertes assez importantes. Elle voulait préserver ses troupes du fait d'un engagement qui était prévu dans le futur contre l'Union soviétique et également dans les Balkans. Donc véritablement, on a assisté à un aspect méconnu de la campagne de 40, qui est souvent présenté comme à travers le film comique Troupier de la 7e compagnie, alors que en vérité, si on voit les archives allemandes que j'ai eu la chance de consulter, les témoignages des combattants allemands, tous témoignent que ça a été des combats très durs contre l'armée française, qui n'a pas démérité sur le terrain, même si elle a été mal commandée.
Alors, une question. On sait tous. Certaines personnes ne savent pas que la guerre s'est déclenchée parce que l'Allemagne était en fait très appauvrie par le système à l'époque qui lui demandait de rembourser une dette qui n'était pas normalement pouvoir, ils ne pouvaient pas la rembourser. Elle était tellement importante que la montée du nazisme, la montée du fascisme s'est faite en Allemagne avec Adolf Hitler. Mais pourquoi plutôt que de mener une guerre industrielle, puisqu'il avait la possibilité, ce chef de guerre, de mener une guerre industrielle et de faire remonter l'Allemagne avec des constructions de voitures, un système économique et de relancer l'économie avec son pays. Pourquoi avoir déclenché une guerre? Est-ce une vengeance par rapport à cette dette, justement, qu'ils avaient à en rembourser, ou est-ce que c'est autre chose?
Ah ben je dirais que la Seconde Guerre mondiale s'est faite en partie au traité de Versailles, où on a accusé l'Allemagne de tous les maux en 1919 d'être l'unique responsable de la Première Guerre mondiale. Donc véritablement, la France était également dans un esprit de revanche extrêmement dur vis-à-vis de l'Allemagne. L'Allemagne s'est trouvée dans une situation économique dans les années 20 extrêmement difficile, avec finalement une dette absolument astronomique. Il y a eu une montée du nationalisme en Allemagne à travers Hitler. Les Allemands ont voulu prendre leur revanche. Ils estimaient qu'ils n'avaient pas été vaincus sur le terrain, ce qui est faux d'ailleurs, puisqu'ils avaient été repoussés de plus de 200 km jusqu'à la frontière belge en 1918 du fait de l'apport capital de l'armée française. Mais néanmoins, dans la mentalité d'une bonne partie du peuple allemand, on avait l'impression qu'on avait été poignardé dans le dos par les hommes politiques de l'époque, les hommes politiques allemands, et donc il y avait véritablement un esprit de revanche au sein d'une partie de la population et également au sein des militaires allemands. Et donc Hitler s'est reposé justement sur ces deux composantes, c'est-à-dire la partie populaire et une partie de l'élite allemande, très nationaliste et assez antisémite, et également de l'armée. Et finalement, à partir de 1933, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il s'est lancé dans des grands travaux. Il a sorti effectivement l'Allemagne du chômage et l'Allemagne s'est relancée économiquement, notamment au niveau industriel et notamment avec la construction d'un grand complexe militaire, militaro-industriel, qui a permis à l'armée allemande de pouvoir engager des combats victorieux en 1939, 1940, 1941 et même jusqu'en 1942, où ils ont conquis une bonne partie de l'Europe. Grâce également à des fins stratèges allemands qui étaient très en avant sur l'époque, les Allemands avaient tiré les leçons de la défaite de 1918, donc, notamment le haut commandement allemand. Donc ils avaient une méthode de faire la guerre qui était très en avance par rapport aux alliés, qui leur a permis de remporter d'importants succès. Ils sont allés au port de Moscou, ils avaient conquis toute l'Europe en très peu de temps, et véritablement ils avaient également un système de guerre performant avec le combat interarmes qui était poussé à son excellence avec l'engagement des Panzerdivisions, des divisions d'infanterie motorisées, un système de transmission extrêmement performant qui permettait de communiquer également avec l'aviation d'assaut qui pouvait également appuyer les chars à tout moment, ce qui a totalement manqué à l'armée française en 1940, et donc ce qui a permis à l'armée allemande de remporter une série de succès absolument époustouflants durant la période de 1939 jusqu'en 1943. Donc véritablement, l'Allemagne était à la pointe à ce niveau-là, au niveau de la technologie militaire. Néanmoins, dans un des chapitres 3 de mon livre, je réhabilite aussi le rôle de l'armée italienne. Contrairement à ce qu'on a dit, elle n'a pas du tout démérité. Les combattants italiens étaient des combattants courageux. Donc Hitler a accusé notamment l'Italie de s'être engagée dans la guerre contre la Grèce, et ce qui aurait repoussé l'invasion de l'Union soviétique. En vérité, c'est totalement faux, on le sait aujourd'hui à travers les archives. Les Allemands avaient déjà repoussé d'un an l'invasion du fait des importantes pertes qu'ils avaient subies contre l'armée française en mai-juin 40. Ils ont mis un an à pouvoir recompléter tous les effectifs. La guerre dans les Balkans n'a pas été, je dirais, un désastre stratégique pour l'Axe. Justement, ça a permis de sécuriser toute la péninsule balkanique qui a été occupée par l'armée italienne de 1941 jusqu'en 1943. Et véritablement, contrairement à ce qu'on a dit, il n'y a pas une suite de revers militaires italiens. Les Italiens ont pu contenir en Albanie l'offensive grecque et ensuite reprendre l'offensive et, avec l'aide allemande, arriver à Athènes en 1941. Ce qui a eu également comme effet aussi de pousser la Grande-Bretagne à devoir engager des renforts dans les Balkans pour soutenir la Grèce et la Yougoslavie. Et ces renforts n'ont pu être engagés lors de la contre-offensive de Rommel en 1941 en Afrique du Nord, épaulée par l'armée italienne. D'autre part, contrairement à ce qui a été affirmé, la marine italienne s'est fort bien comportée en Méditerranée. Il y a eu notamment les commandos sous-marins italiens, les hommes torpilles du prince Borghese, qui ont coulé les deux cuirassiers de ligne britanniques qui existaient en Méditerranée, ce qui a permis à la flotte italienne de pouvoir ravitailler en Afrique du Nord à 90% de succès l'Africa Corps de Rommel et également l'armée italienne qui combattait aux côtés des troupes de Rommel, et ce qui leur a permis d'atteindre Aïl Alamein en Égypte au mois de l'été, durant l'été 1942. D'autre part, il y a eu des fautes stratégiques qui ont été commises par Hitler, notamment il n'a pas pu s'arroger, je dirais, le soutien de Franco. Or, ça a été un moment capital de la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a souvent jamais été abordé. Je suis peut-être un des premiers à l'aborder. Il faut savoir que si l'Allemagne avait conquis le rocher de Gibraltar et que les troupes de Franco s'étaient engagées du côté des Allemands et des Italiens à travers le Maroc espagnol, donc c'est véritablement, le verrou stratégique du détroit de Gibraltar avait été... verrouillé par les troupes allemandes, italiennes et espagnoles, Churchill ne pouvait plus ravitailler en Égypte. Donc les Allemands auraient pu conquérir toute l'Afrique du Nord et certainement engager ensuite des opérations militaires jusque en Irak et conquérir les puits de pétrole du Moyen-Orient. Véritablement, on aurait eu un basculement de la Seconde Guerre mondiale à partir de 1942, avant même véritablement l'engagement des États-Unis aux côtés des alliés à l'Ouest. Puisque dans un premier temps, les Américains ont été engagés dans le Pacifique, et ce n'est qu'à partir de novembre 1942 qu'ils sont engagés en Afrique du Nord, avec pas mal de difficultés d'ailleurs. Donc véritablement, j'aborde des aspects qui sont des retournements véritablement méconnus et qui ont joué un rôle important. Si Franco s'était engagé aux côtés de l'Axe, il aurait pu verrouiller le détroit de Gibraltar avec l'aide allemande, et ce détroit qui était hautement stratégique, qui était d'ailleurs très mal défendu par les Britanniques. Il faut savoir que les pièces d'artillerie de la forêt de Gibraltar au niveau militaire étaient dépourvues de toits et de protection. C'était simplement des pièces à ciel ouvert, donc qui auraient pu être facilement détruites par l'aviation allemande. Et les troupes espagnoles et allemandes auraient pu conquérir facilement le détroit de Gibraltar et empêcher véritablement le ravitaillement donc, de toutes les troupes britanniques du Commonwealth britannique qui luttait en Afrique du Nord. Et donc, on aurait assisté à un véritable basculement dès 1941 de la guerre en Afrique du Nord. D'autre part, il y a un aspect souvent méconnu. On oublie que le fait que les troupes françaises aient pu faciliter le rembarquement des troupes britanniques à Dunkerque a permis à la Grande-Bretagne de poursuivre la guerre, comme ça a été reconnu. Et il faut savoir que l'une des principales causes de la défaite allemande de la Seconde Guerre mondiale, ça a été la guerre sur deux fronts. Ce qui a été d'ailleurs la cause, un siècle auparavant, de la défaite de Napoléon aussi, qui s'était engagé maladroitement en Russie aussi, et qui n'avait pu vaincre la Grande-Bretagne. On s'est retrouvé dans le même cas de figure, un siècle plus tard, concernant l'Allemagne hitlérienne, qui n'a pu vaincre donc la Grande-Bretagne dès 1940, qui s'est trouvé donc engagé dans une guerre en Afrique du Nord et à l'Ouest contre les Britanniques et ensuite les Américains, et à l'Est contre l'Union soviétique, ce qui a séparé en deux l'effort militaire allemand et italien. Donc, or, si la Grande-Bretagne avait capitulé suite à l'armistice français de juin 1940, le Churchill était dans un état d'extrême faiblesse face à notamment les autres opposants politiques britanniques qui étaient favorables à un armistice temporaire avec l'Allemagne, ce qui aurait permis à l'armée allemande d'engager toutes ses forces contre l'Union soviétique. Or, il faut savoir qu'il y a eu quand même 60% de l'armée allemande qui a combattu contre l'armée soviétique et 40% de l'armée allemande qui a combattu à l'ouest, soit en Afrique du Nord, soit en Normandie, contre les troupes anglo-américaines et françaises qui avaient repris le combat à partir de 1942. Donc, véritablement, le cours de la guerre aurait pu être modifié si l'armée allemande avait pu engager la totalité de ses troupes contre l'Union soviétique et ne pas être obligé de devoir lutter sur deux fronts, ce qui a été fatal sur le long terme à l'armée allemande.
On va. Merci Dominique. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, parce que c'est très important justement pour nos auditeurs de comprendre et de voir que toutes ces vérités qui ne sont pas dites ou détournées, parce qu'il y a des vérités qui ne sont pas dites, mais d'autres qui sont transformées, je dirais, pour des raisons politiques et des raisons d'histoire, sont dites aujourd'hui. Et c'est très intéressant avec Dominique ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous lui proposerons de revenir faire une émission sur la suite justement du tome 1. Du livre qu'il a écrit, et on approfondira le sujet. On va faire une petite page de musique de 2 minutes, pas très longtemps parce qu'on était un peu en retard, et on revient tout de suite après avec lui. Alors, de retour sur les ondes des portes de la connaissance, avec aujourd'hui, pour ceux qui nous rejoignent, Dominique Lormier, qui nous parle des vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale. On en a beaucoup dit jusqu'à maintenant avec lui. Ceux qui nous rejoignent pourront écouter le podcast qui est sur le site d'O2 Radio dans les portes de la connaissance, les émissions du vendredi après-midi. Voilà. Donc, Dominique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Parce qu'il nous reste 10 minutes d'émission. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces vérités cachées ? Qu'est-ce qu'il y a encore à dire ? Je suppose qu'il y a encore des choses à dire intéressantes.
Oui, eh ben, il y a l'apport des Alliés qui a souvent été mis en avant, je dirais, au bénéfice uniquement des Américains, alors que la Russie soviétique a joué un rôle déterminant. Il faut savoir que sur les 5 500 000 soldats allemands tombés durant la Seconde Guerre mondiale, 4 millions sont tombés contre l'armée soviétique. Donc, véritablement, on peut dire que l'armée soviétique a joué un rôle capital dans la victoire des Alliés. Alors, effectivement, avec le débarquement de Normandie, on a mis surtout en avant le rôle des Américains. Mais, or, il faut savoir également que les troupes qui ont débarqué en Normandie étaient à 60% composées de troupes britanniques, canadiennes et de Français libres, et que les Américains ont je dirais, engagé 40% des effectifs durant cette campagne de Normandie. Que l'armée américaine a souvent été mise en difficulté et que c'est grâce à sa formidable puissance de feu qu'elle a pu prendre le dessus, notamment du fait de sa totale suprématie aérienne lorsqu'il y avait véritablement un blocage des troupes américaines face aux Allemands ou même contre les Italiens. Ils engageaient automatiquement des unités de bombardiers stratégiques qui rasaient véritablement le terrain, ce qui permettait ensuite aux troupes américaines de progresser. La bataille de Normandie a été une bataille extrêmement dure et qui n'était pas gagnée d'avance. Il faut savoir qu'il y a eu une erreur stratégique énorme du maréchal Rommel qui s'est focalisé sur la persuasion que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais, alors que Hitler avait eu l'intuition que le débarquement aurait lieu en Normandie. C'est généralement totalement méconnu, je suis un des premiers à l'aborder, et j'aurai l'occasion de l'aborder dans un livre qui sortira en 2024 sur les vérités cachées de la Libération, justement, qui sortira chez le même éditeur, aux éditions du Rocher, où j'aborderai justement le fait que Hitler avait eu l'intuition géniale de voir que le débarquement pouvait se dérouler là où on ne l'attendait pas, c'est-à-dire en Normandie. Or, si Rommel avait suivi les conseils d'Hitler, à ce moment-là, les panzerdivisions qui se trouvaient dans le Pas-de-Calais se seraient retrouvées proches des côtes normandes et les Allemands auraient pu rejeter les Alliés à la mer. Il convient de souligner le rôle important qui a été celui aussi de la résistance française. Qui a parfois été dénigré. Alors il faut savoir que 80% des renseignements qui ont été fournis aux alliés qui ont permis le succès du débarquement en Normandie ont été fournis par la résistance intérieure française. Il y avait notamment à Bordeaux un réseau sélect qui était le réseau de la confrérie Notre-Dame qui avait été fondé par le colonel Rémy et qui a joué un rôle important dans la défaite de la Kriegsmarine durant la bataille de l'Atlantique. Ce réseau était bien implanté au niveau du port de Bordeaux. Ils ont très bien renseigné les va-et-vient des sous-marins allemands, mais également italiens, puisqu'il y avait à Bacalan 32 sous-marins italiens et une 12e flottille de U-boats allemands. Et donc, véritablement, à ce niveau-là, la résistance intérieure a été très efficace. Elle a permis également l'évacuation de 4000 aviateurs alliés qui ont été récupérés en France, qui avaient été abattus par la FLAC ou la chasse allemande et qui ont été récupérés par les réseaux d'évasion de la résistance, qui ont pu ensuite, je dirais, les exfiltrer et les ramener en Grande-Bretagne. 4000 aviateurs, c'est un rôle également important à ce niveau-là. Et il y a eu les maquis de la Libération qui ont fixé de nombreuses garnisons allemandes dans la guérilla, notamment dans le sud-ouest. Il y a eu notamment la colonne allemande Elster, qui était une colonne de 25 000 Allemands qui ont essayé, au mois d'août et septembre 1944, qui a essayé de remonter, quitter le sud-ouest de la France, pour rejoindre l'Alsace et la Lorraine, pour constituer un nouveau front face aux troupes alliées. Or, cette importante colonne allemande, l'équivalent d'un corps d'armée de l'armée allemande, 25 000 hommes, a été constamment attaqué entre Bayonne et l'Indre par les différents maquis, notamment la brigade Charles Martel, les éléments du corps franc-pommier, ces différentes unités de la résistance intérieure. Les Allemands ont essuyé 104 embuscades entre leur départ de Bayonne jusque, je dirais, au fleuve de la Loire. Et c'est si bien que les Allemands n'ont pas pu passer le fleuve de la Loire, ils ont été contraints de capituler en race campagne et ça a été un des plus beaux faits d'armes de la résistance. 25 000 Allemands mis hors de combat. Dans le sud-ouest, il y a eu également des combats extrêmement durs parce que la résistance intérieure a été efficace. Elle a mené une guérilla mobile, elle n'a pas fait les erreurs que nous avons connues dans le sud-est de la France, avec le maquis du Vercors ou des Glières qui ont voulu engager une bataille frontale contre les troupes allemandes alors qu'elles n'étaient pas équipées pour. Par contre, la résistance dans le sud-ouest a mené une guérilla mobile très efficace et qui a véritablement dispersé les troupes allemandes dans des opérations de guérilla qui ont été extrêmement dures. Il y a eu de nombreuses garnisons allemandes également qui ont essayé de passer en Espagne et qui ont été mises hors de combat, notamment celle de Laurent-Sainte-Marie, celle de Lourdes, celle de Tarbes. Enfin, ce sont des unités allemandes qui étaient relativement importantes. Il y avait encore des unités de la division d'Eisreich qui, même jusqu'au mois de juillet et août, combattaient encore dans le sud-ouest contre les maquis. La moitié de la division d'Eisreich n'est jamais arrivée en Normandie. Elle était contrainte de mener des opérations de guérilla contre les maquis, où elle a commis d'ailleurs le crime de Radour-sur-Glane et également de Tulle. Néanmoins, les maquis, notamment du Limousin, ont mené une guérilla extrêmement efficace. Et il faut savoir qu'à peu près sur les 200 000 soldats allemands qui étaient implantés dans le sud-ouest, la moitié ont été mis hors de combat par les forces combattantes de la résistance. Notamment aussi du fait des combats sur les poches de l'Atlantique, où les Allemands s'étaient retranchés à partir de septembre 1944 à la pointe du Médoc, à Royan, La Rochelle. Et ces poches ont été enlevées de haute lutte après des combats très durs en avril 1945 par les unités FFI qui avaient été enrégimentées et commandées par le général de Larmina et le colonel de Milleret au sein de la brigade Carnot. Donc véritablement des combats très durs qui ont été menés jusqu'au mois de mai 1945. Il faut savoir que la poche de La Rochelle n'a capitulé que le 9 mai 1945 alors que la capitulation effective de l'Allemagne avait eu lieu à Berlin le 8 mai. Donc, véritablement, le sud-ouest n'a été définitivement libéré que le 9 mai 1945 avec la capitulation allemande de la généralisation allemande de la poche de La Rochelle. Et il faut savoir qu'à La Rochelle, Royan et à la Pointe de Grave, ce sont 30 000 soldats allemands qui ont été capturés par les forces françaises de l'ouest qui étaient composées en grande partie des maquis de la libération qui ont joué un rôle important à ce niveau-là. Également un rôle important joué par l'armée de l'Ain qui a libéré tout le sud-est de la France, qui avait débarqué en Provence, la division Leclerc qui avait débarqué en Normandie, qui a libéré Paris et ensuite a foncé jusqu'à Strasbourg qu'elle a libéré et ensuite jusqu'au nid d'aigle d'Hitler. Un quart du territoire allemand sera conquis par les troupes françaises de l'armée de l'Ain ou de la division Leclerc. Donc dans mon livre également, je remets également à sa juste place le rôle important qui a été joué par la France dans la défaite allemande durant la période de 1944-45.
Merci Dominique, merci. On va devoir rendre l'antenne parce que c'est bientôt les infos. Je vous rappelle, le livre, si vous voulez l'acheter, Dominique Lormier, Les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale, c'est le tome 2, il y a le tome 1. Le tome 1, c'est quoi ?
Le tome 1, il est, c'est pareil, c'est le même titre.
C'est le même titre ?
Voilà.
D'accord, vous avez le tome 1, donc vous avez la suite, et vous aurez une suite avec...
Les vérités cachées de la libération.
De la libération,
qui sortira...
Donc très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la Deuxième Guerre mondiale, très intéressant. On fera revenir Dominique pour d'autres émissions, pour parler de ce sujet, pour parler d'autres sujets aussi, on vous en parlera longtemps à l'avance sur le site Facebook. On vous en parlera. La semaine prochaine, normalement, si tout va bien, on invite, vous le saurez sur le site Facebook, des Portes de la Connaissance d'Eau de Radio, allez voir le programme Les Dresseurs de Chiens d'Aveugles. Et nous inviterons, si ce n'est pas ce sujet, nous inviterons le commandant Grélet, qui est commandant de bord de 747 et qui a vu des ovnis et qui nous parlera de sa carrière de pilote. Merci à tous encore. L'émission est terminée. Merci à Dominique. Merci infiniment, Dominique.
Merci à vous également.
Et à bientôt.
À bientôt.
Les Portes de la Connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.